Bon, on a avec nous ce soir Maud qui est porte-parole du réseau Réel Engagement SDF. Est-ce que peut-être tu peux commencer par nous rappeler ce que c'est que ce réseau rapidement ?
Donc très précisément, c'est le réseau des professionnels de l'urgence sociale. C'est donc un réseau constitué de professionnels travaillant dans le champ de l'urgence sociale, c'est-à-dire soit au 115, soit dans les équipes mobiles, ça peut être dans les structures d'hébergement d'urgence, dans les accueils de jour, etc., etc. Voilà, c'est un réseau qui appartient à la Coordination nationale des professionnels de l'urgence sociale, qui regroupe donc les réseaux qui existent en local, des réseaux de professionnels qui considèrent que, au regard du contexte actuel, ils ne peuvent plus effectuer les missions qui leur sont confiées et donc sont obligés de se mobiliser en dehors de leur temps de travail.
D'accord, on va profiter que tu es là pour parler de cet hiver qui s'annonce à Lyon. On sait qu'à la fin du mois de septembre, la préfecture a annoncé un plan froid qui permettrait de loger 650 personnes. Bon alors, peut-être on va même remonter un petit peu avant sur les possibilités d'hébergement d'urgence au cours de l'été, ou quand on appelait le 115, est-ce qu'on avait vraiment des chances de trouver à se loger ?
Alors on est à la limite du risible, hein, vu que qu'on appelait le 115 cet été, environ 4 personnes en moyenne, hein, c'est les chiffres officiels, pouvaient avoir une place cet été. Du coup, il y a des personnes qui, depuis le mois d'avril, appellent chaque jour le 115 et se voient proposer aucune solution.
4 personnes, c'est sur l'agglomération lyonnaise.
Sur l'agglomération lyonnaise, il y avait en moyenne 4 places mises à disposition.
Pendant ce temps, on va revenir dessus aussi, hein, mais on a une loi qui devrait faire que ça devrait pas être possible.
Tout à fait. C'est la loi MOL, très précisément l'article 345.2, alinéa 2 et 3, qui dit que toute personne a accès immédiatement à un centre d'hébergement d'urgence, donc ça c'est le premier alinéa, et le deuxième, toute personne prise en charge dans un centre d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer jusqu'à ce qu'une solution durable et adaptée lui soit proposée. Ça, c'est pas les professionnels qui l'inventent, ni les militants, c'est juste la loi.
Bon, mais alors voilà, donc ça s'est mal passé cet été, mais là, à l'entrée d'hiver, heureusement, la préfecture nous annonce 650 places qui vont être ouvertes, qui vont certainement cette fois couvrir un peu les besoins, et personne ne va être à la rue cet hiver.
Alors c'est effectivement ce qui a été annoncé. 650 places, c'était à la fois du jamais vu, à la fois déjà inquiétant pour le mois d'avril, mais bon, on pouvait saluer un effort pour la période hivernale. L'ouverture du plan froid, c'était le 3 novembre. À l'heure actuelle, seules 120 places supplémentaires ont été mises à disposition. À 11h le 3 novembre, elles étaient déjà complètes. Ce qui fait que hier, c'était 418 personnes qui ont appelé le 115 sans obtenir de solution.
Est-ce qu'on a une idée des personnes qui appellent pas le 115, enfin, est-ce qu'il y a une espèce de pourcentage ou un rapport qui peut être fait en...
Alors c'est toujours extrêmement compliqué, hein, de comptabiliser le nombre de personnes sans logement et hébergement dans l'agglomération. En 2009, la mairie et le réseau Personnes dehors ont essayé de faire une enquête en fait pour dénombrer le nombre de personnes sans logement et hébergement dans l'agglomération. On arrivait sur une évaluation qui était de l'ordre de plusieurs milliers. Pourquoi plusieurs milliers ? C'est-à-dire que toutes les structures en fait sociales de Lyon étaient interrogées sous forme d'enquête. Seul 10% du public de chaque structure a été interrogé et on arrivait à 1000 personnes, donc par extrapolation on pourrait arriver à 10 000, sauf que vu qu'il y a des doublons, on peut dire qu'il y a quand même plusieurs milliers. Ce qui fait que les 418, ça représente que la partie émergée de l'iceberg, très logiquement.
Ok.
Oui, parce qu'on a eu la question pour l'été, mais aujourd'hui, du coup, si une personne appelle le 115, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quand même des personnes qui ont des places ? Enfin, parce que le 3 novembre, d'un coup, il y a eu des places qui ont été ouvertes. Mais les jours suivants, est-ce qu'il y avait encore des places qui étaient distribuées ou est-ce qu'on en revient à la même que l'été et plus personne n'a de réponse ?
Non, on est exactement, effectivement, dans la même configuration que l'été. Alors pourquoi ? Parce qu'à Lyon, on applique le principe de continuité de l'hébergement. C'est-à-dire qu'une personne prise en charge peut continuer à être hébergée. Alors bon, je dis ça, en même temps, on sait que c'est mêmes personnes seront remises à la rue à la fin de l'hiver, mais les personnes qui ont eu des places pour le 3 novembre y demeurent, ce qui est une bonne chose parce qu'on respecte la loi et qu'effectivement on espère que ça permettra des sorties du dispositif. En contrepartie, et parce qu'on est dans un contexte de pénurie, non parce qu'on applique le principe de continuité, mais parce qu'il manque des places, le dispositif est complètement bloqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui appelle le 115, elle devra attendre de potentiels centres qui vont peut-être ouvrir, parce que quand même, on était sur une annonce de 650 places, on est à 120, donc on attend le reste. Peut-être en décembre, en janvier, on sait pas trop, on sait rien. Voilà, c'est extrêmement inquiétant.
Mais est-ce que toi, par exemple, tu crois au fait qu'il y ait 650 places à un moment, simultanément, ou...
Non, j'y crois plus du tout. Les choses ont été préparées vraiment à la va-vite, comme chaque année. On annonce 650, on se retrouve à 120, des centres doivent ouvrir, il y en a qui n'ont pas de terrain, visiblement, on sait pas, on sait rien. Moi je pense que 650, si on annonce 650, il devrait y en avoir 650 le 3 novembre, je vois pas pourquoi certaines ouvriraient en décembre, certaines en janvier, on pourrait en ouvrir au mois de mars pour les fermer 15 jours plus tard.
Parce que quand la préfecture a annoncé 650 places, elle a pas du tout annoncé où elle comptait les trouver ces places.
Non, elle n'a pas du tout annoncé. Après, ça s'est joué entre les associations. Il y a eu un appel d'offres, un appel à projet. Les associations y ont répondu. Tout ça, c'est assez. Ça se passe entre les associations et l'État. C'est pas forcément annoncé. Il y a eu un effet d'annonce au début de l'hiver où on a annoncé, par exemple, l'ouverture, d'un centre sur Fontaine. Fontaine-sur-Saône, bon, il est toujours pas ouvert à l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il ouvrira, on ne sait rien.
Cette idée, en tout cas au minimum, de faire cet effet d'annonce, c'est quelque chose qui a eu lieu que à Lyon, ou ça a été comme ça un peu dans toutes les villes en France, ou certaines autres villes ou...
Ce qui était très étonnant, c'était que c'était uniquement à Lyon qu'il y a eu un tel effet d'annonce. L'année dernière, on était à peu près à 400 places supplémentaires, donc là on était assez surpris d'avoir une annonce de l'ordre de 650 places supplémentaires. Alors est-ce que le contexte lyonnais, avec un petit peu plus de pression peut-être qu'ailleurs, avait contribué à cet effet d'annonce? En tout cas, c'est pas réussi, vu que au niveau des professionnels, ça nous a bien bien énervé d'attendre ces 650 places et qu'elles ne soient pas là le 3 novembre. Nous, on a dit aux gens d'appeler le 3 novembre, qu'il y aurait de la place. On imaginait quand même qu'il y aurait un certain nombre de personnes qui pourraient se reposer au moins pendant 4-5 mois. Et là, c'est vraiment la grosse désillusion. Bon, on a eu tort d'y croire, c'est tout.
Et alors, sur l'histoire dont on a eu tort d'y croire, ça fait quand même 4 ans que la loi en question existe, qui fait que tout le monde devrait être logé. Est-ce que pendant ces 4 ans, il y a eu... Est-ce que malgré tout, il y a une sorte de mieux, de progrès? Est-ce que ça a rien changé? Est-ce que ça a juste changé des formes?
Alors, par rapport à la loi, je dirais que depuis janvier 2010, et donc l'application du principe de continuité à Lyon, ça a changé un certain nombre de choses pour les personnes qui ont pu être prises en charge. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles arrivent à rentrer dans les centres, pour celles qui ont la chance d'y arriver, un accompagnement social peut être mis en place pour effectivement sortir du dispositif. Cet accompagnement social est nécessaire pour un certain nombre de personnes. Pour d'autres, il n'y en a pas besoin, mais elles ont au moins besoin de se poser pour se projeter et ne pas être dans une logique de survie. Donc à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a une amélioration des choses. En revanche, le nombre de personnes sans solution, quand on regarde sur les 2 dernières années, il a doublé. Quand je dis le nombre de personnes sans solution, ce sont les personnes qui appellent le 115 et qui n'obtiennent pas de solution suite à leur appel. En 2009, au mois de novembre, avant l'ouverture des places supplémentaires, on était de 100 à 130 personnes qui sollicitaient le 115 et qui n'avaient pas de solution. Aujourd'hui, l'hiver a commencé, on est avec 120 places supplémentaires et on est à 418 personnes qui sollicitent le 115 sans obtenir de solution. C'est un indicateur comme un autre, mais ça permet quand même d'illustrer la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons.
Ça fait plusieurs fois que tu fais référence à sortir du dispositif. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par là? Parce que c'est pas forcément très clair pour tout le monde.
Effectivement, c'est du jargon professionnel, donc dispositif. Dispositif, c'est tout le dispositif d'hébergement d'urgence, d'hébergement de réinsertion. Quand on dit sortir du dispositif, c'est des personnes qui parviennent à accéder au logement, que ce soit un logement autonome, de droit commun, comme tout le monde, ou des formes de logement adaptées pour ceux qui ne souhaitent pas vivre seuls ou qui ont perdu de l'autonomie après des années et des années de rue et qui ont besoin d'un accompagnement plus particulier, d'un étayage un peu plus renforcé. Donc sortir du dispositif, ça veut dire sortir aussi d'une précarité qui est quand même celle qui existe dans les centres d'hébergement d'urgence.
Oui, parce que l'été dernier, le ministre du Logement a trouvé aussi que l'hébergement d'urgence, c'était pas ce qu'il fallait, que ce qu'il fallait, c'était des appartements, pour que les gens puissent avoir des appartements. Et là, vous étiez encore pas content.
On n'est jamais content, hein. Alors oui, effectivement, cet été, la coordination nationale a appelé à la grève le 2 août. C'était pas contre la réforme du logement d'abord, hein. C'était par rapport à sa mise en œuvre. En effet, en mai 2011 avait été annoncé une diminution en fait du budget alloué à l'hébergement sous prétexte que maintenant les gens n'allaient pas aller en hébergement mais en logement. Alors cette politique du logement d'abord, pour essayer de l'expliquer un petit peu, c'est faire en sorte que les gens arrêtent de passer par différents stades d'un escalier pour accéder au logement. Actuellement, les gens passent par un centre d'hébergement d'urgence où il y a plus ou moins d'accompagnement. Après, ils accèdent à un centre d'hébergement et de réinsertion sociale où on les accompagne de manière un peu plus costaud, voilà, dans un projet de vie, etc. Après, ils accèdent à un logement temporaire pour vérifier s'ils arrivent bien à habiter, etc. Voilà, faire un premier test. Et enfin, ils arrivent au logement. Alors tout ça, ça prend des années et des années. Les gens voilà, se découragent plus ou moins au milieu du parcours, ce qui peut se comprendre. Et la logique du logement d'abord, c'est de dire que on arrête de vouloir faire rentrer les gens dans un dispositif, mais on adapte le dispositif aux personnes. C'est-à-dire qu'on leur propose un logement, donc soit un logement de droit commun, donc comme tout le monde, soit un logement adapté avec l'accompagnement social qui va avec pour ceux qui en ont besoin. Et voilà, on leur propose directement un logement. C'est une politique qui a été expérimentée à la fois au Canada, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, qui a montré que ça marchait, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins d'échecs de réinsertion, si on parle dans ces termes-là, qui était moins coûteuse en termes de dépenses publiques, voilà. Donc c'était du gagnant-gagnant. Donc nous, on soutient cette politique du logement d'abord. On pense que c'est possible. On l'a déjà expérimenté dans différentes institutions sans qu'elles s'appellent comme ça. Sauf que ça suppose deux choses. La première chose, ça suppose qu'il y ait des logements. Et la deuxième chose, ça suppose qu'on pense des formes de logement adaptées et qu'on mette les moyens sur l'accompagnement social, médical et psychologique pour les personnes qui en ont besoin. Or, aujourd'hui, les logements, on n'en voit pas la couleur, il n'y a pas de réelle volonté politique de s'inscrire dans une production de logements accessible, de réguler les prix du marché, etc. L'accompagnement dans le logement non plus, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne pourront pas accéder au logement. Du coup, pour nous, le logement d'abord, c'est seulement un effet d'annonce qui sert plus ou moins à justifier des diminutions de budget. Alors, sous la pression, le gouvernement est finalement revenu sur ces 3%, ce qui permet aux associations de finir l'année, de boucher un peu les trous pour ceux qui avaient des trous dans leur budget. Mais voilà, on n'est pas du tout dans un changement de paradigme tel que le propose le gouvernement.
Les gens qui sont à la rue aujourd'hui à Lyon et en France plus généralement, c'est quel type de gens? C'est des familles? C'est des personnes isolées?
Alors on est dans un contexte où les choses évoluent quand même. En 93-94, quand le SAMU social a été fondé, on était sur un public qui s'apparentait à la figure du clochard, du SDF, très désocialisé, etc. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on va dire 2-3 ans, un peu plus longtemps à Paris, on voit apparaître un certain nombre de familles, des personnes qui sont victimes de la crise économique. On le voit toujours avec un temps de retard, en fait, parce que souvent, c'est des gens qui parviennent à être hébergés chez des amis, chez de la famille. Or, le temps pour accéder à un logement social, il est tellement long que ces solutions de dépannage, elles finissent par craquer. Et les personnes se retrouvent dans la rue ou dans le dispositif d'hébergement. C'était des gens qui, avant, qu'on ne voyait pas. C'est vrai que, voilà, moi je travaille dans une association où j'ai été amenée à recevoir une mère et deux enfants qui avaient par exemple dormi dans un hall d'immeuble. Donc dehors, on retrouve effectivement des familles, des hommes isolés, des personnes en migration, on retrouve tous les publics. On ne retrouve pas forcément que des familles sans papier ou en situation administrative précaire comme on peut se l'imaginer. On est vraiment à un moment un tournant, je pense, où on commence à mesurer dans la rue la précarisation que connaît aujourd'hui notre pays. On dit qu'on mesure par la marge l'état où on est une société, et je pense que vraiment ça se vérifie aujourd'hui.
Le fameux travailleur pauvre dont on a commencé à parler il y a quelques années, il y a aussi des gens qui bossent et qui sont dans la rue, par exemple.
Oui, ça commence à exister à Lyon, des gens qui vivent dans leur voiture et qui travaillent.
Ok, et qu'est-ce que tu fais demain en fin d'après-midi?
Alors demain, fin d'après-midi, avec beaucoup de gens, j'espère, je serai place Carnot, du coup, à 18h pour manifester. Alors, qu'est-ce que c'est cette manifestation? C'est une manifestation qui s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation nationale à l'appel de plusieurs collectifs. Donc le premier, c'est le collectif des associations unies. Donc ce collectif, il regroupe toutes les grandes associations nationales, fédérations. Pour en citer juste quelques-unes, c'est la Fondation Abbé Pierre, c'est la FNARS, le Secours catholique, le Secours populaire, bref, les mastodontes, il y en a 33, donc je ne vais pas toutes les citer, mais en gros, les grosses institutions. Le deuxième, bah, c'est nous, la Coordination Nationale des Professionnels de l'Urgence Sociale. Les deux autres collectifs, ce sont des collectifs parisiens plutôt, donc Urgence Saint-Ouen et Plateforme Un Chez Soi pour Tous. On s'est tous réunis et c'est assez inédit de voir un tel rassemblement pour dénoncer l'état de crise dans lequel se trouve le système actuellement.
Donc c'est dire des gens comme la FNARS ou le Secours Catholique, ça nous ont pas tellement habitués à aller manifester dans la rue, non?
Alors des fois ils ont manifesté, mais pas toujours avec les autres, ça dépend, voilà, des fois c'était en soutien, ça dépend, voilà. Mais on sent depuis certaines années, depuis je dirais 2-3 ans, mais de manière massive cette année, une volonté commune de dire que les choses ne peuvent plus continuer comme ça, que c'est plus possible, donc on ne soutient plus la manifestation d'un autre, etc. Tous ensemble, on va porter le même message pour dire que c'est plus possible. Donc qu'est-ce que c'est le message? On ne demande pas la lune, on demande juste l'application de la loi. Donc l'application de la loi Moll, les articles que j'ai cités au début de l'entretien, l'application de la loi Dalo et l'application de la loi sur la réquisition des logements vacants. Voilà. Alors c'est un rassemblement inédit, j'insiste là-dessus. On espère qu'il y aura beaucoup de monde à Lyon. Ça se passe à 18h, ça se passe, place Carnot. Pourquoi place Carnot? Parce que c'est un endroit où quand même il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui appellent le 115 et qui n'ont pas de solution.